Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous ont eu un choc aujourd'hui. Je ne suis pas morte. J'ai eu beaucoup d'appels, des gens en pleurs qui m'ont dit « Christine, on croyait vraiment que tu étais décédée ». Je suis là et vraiment je suis très choquée parce que moi je l'ai pris pour une blague parce que je sais que je suis encore en vie, enfin bon voilà. Mais ça a vraiment, 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 cette mauvaise blague touché des amis. Donc je regrette vraiment ce genre de blague sur la vie des gens. Bonsoir Simon Guélin, les infos du soir.
Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Le match PSG-Barcelone sous très haute sécurité ce soir au Parc des Princes. Le dispositif a été considérablement renforcé dans la capitale. Cela fait suite aux menaces proférées par l'État islamique. L'organisation terroriste appelle à viser les stades qui accueillent les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jonathan Daval a une nouvelle fois comparu devant la justice, cette fois-ci pour dénonciation calomnieuse. Lors de sa mise en examen, il avait accusé son beau-frère du meurtre de son épouse Alexia. Le procureur de la République a requis la relaxe de Jonathan Daval. Le jugement a été mis en délibéré au 24 mai. Et puis à 3 mois et demi des Jeux Olympiques, la CGT a déposé des préavis de grève dans les 3 branches de la fonction publique pour la durée de l'événement. Les dates s'étendent même du 15 avril au 15 septembre. Le syndicat réclame notamment des compensations salariales, cher Christian.
Et au sommaire ce soir, le pacte asile et migration a été voté sans surprise au Parlement européen. À 2 mois des élections européennes, il arrive près de 3 ans après d'âpres discussions avec les 27 pays membres. Un texte qui encadre la politique migratoire européenne, un texte d'une importance historique. Mais sommes-nous dans l'efficacité ou la perversité? L'Union européenne va-t-elle protéger les États membres contre l'immigration ou en fait l'organiser? Nous serons en direct depuis Bruxelles avec Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux européennes, dans un instant. À Romans-sur-Isère, un jeune de 15 ans a été poignardé dans le dos dans le quartier de la Monnaie. Encore un ado, encore un couteau, encore un mort. Mais non, 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 la multiplication des violences n'existe pas. Non, 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 les bagarres ne sont pas de plus en plus violentes. Ces faits existent juste parce que les télévisions sont en panne d'actu. C'est ce qu'a expliqué l'émission Quotidien hier. Si la prise de conscience politique évolue, la gauche médiatique ferme-t-elle les yeux? L'édito de Mathieu Bocoté. Le crime d'honneur n'existe pas, les crimes d'horreur, oui. Voici les propos du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, hier à l'Assemblée nationale. On se souvient également des propos du garde des Sceaux en 2020, qui ne parlait pas d'ensauvagement, mais de sentiment d'insécurité. En quoi sommes-nous là, dans un aveuglement stratégique ou dans une réalité que le ministre peine à expliquer? L'analyse de Geoffroy Lejeune, qui est avec nous ce soir. Alors que l'État islamique menace d'attentat le match PSG-Barça ce soir, on se posera la question de la sécurité à 107 jours des JO. Est-ce que cela augure mal de la sécurité de cette rencontre? Aucun policier-gendarme ne prendra de vacances. Est-ce que le prix à payer pour sécuriser les JO est acceptable? Et puis Gérald Darmanin a-t-il raison d'être confiant? Le regard de Guillaume Bigot. Et puis une jeune fille a porté plainte hier après avoir été agressée près de Strasbourg par 4 adolescents parce qu'elle ne respectait pas le jeûne du Ramadan qui se terminait d'ailleurs hier soir. Elle n'est que légèrement blessée, mais ses signaux faibles ne sont-ils pas inquiétants? Aujourd'hui, pourtant, c'est une grande fête pour tous les musulmans du monde. Or, c'est devenu une information en France, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Quelle est cette fête? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Une heure avec nos mousquetaires, on commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir. bonsoir à tous. Certainement regardé avec des yeux un peu bizarres, mais cette nuit, j'ai appris que je suis décédée. Je suis décédée avant-hier à 5h24 du matin d'une leucémie. Mes obsèques auront lieu au Lamentin, en Guadeloupe, effectivement dans ma commune natale. Alors vous imaginez bien que j'ai passé la nuit à rassurer mes tontons, mes tatis, mes cousins, mes cousines, mes amis qui m'appelaient en pleurs pour vérifier si mon portable fonctionnait. Donc je veux juste dire que si c'est pour m'atteindre moi, ce n'est pas bien grave, mais ça fait très mal à certaines personnes qui ont eu des malaises, qui ont eu des problèmes de santé cardiaque juste après avoir vu cette information. Comme quoi, il y a peut-être une ou deux personnes qui m'aiment encore au monde. En tout cas, ces mauvaises blagues sont vraiment à punir. Quoi qu'il en soit, je suis encore là ce soir et Dieu seul sait pendant combien de temps. On aura Jean-Dan Bardella dans un instant, en direct depuis Bruxelles, puisque le pacte asile migration a été voté. Ouh, on l'attendait depuis longtemps celui-là. Hein. Ça fait 3 ans, non mais c'est vrai, 3 ans d'âpres discussions. On va en parler dans un instant, d'âpres discussions pour qu'on puisse régler ce problème d'immigration au niveau de l'Union européenne. On va voir ce qu'il en est avec Jean-Dan Bardella dans un instant. Mathieu Bock-Côté, on commence par vous. La multiplication des violences, de plus en plus graves hein, chez les jeunes, a frappé l'opinion depuis une semaine. On assiste peut-être à une prise de conscience chez les politiques, mais pas dans la gauche médiatique. Alors hier, par exemple, l'émission Quotidien a voulu relativiser cette montée de violence en expliquant qu'elle n'avait pas eu lieu. Sociologues à l'appui, quand même, chiffres à l'appui. Alors, ils ont peut-être raison, que comprendre ?
Ils n'ont certainement pas raison, mais on est dans la mécanique du déni telle qu'on la pratique. Alors, cette émission, je ne sais pas combien il y a d'oreillettes à Quotidien, cela dit. Donc, qui parle véritablement quand quelqu'un parle, je n'en sais rien. Mais ça, c'est quand même, on a quand même eu quelques indices inquiétants à l'Assemblée nationale. Mais je suppose qu'il est là. Il y en a qu'un seul qui a l'oreillette et les autres parlent librement. Donc, ils sont responsables de leurs propos, ceux-là. Bon, là, vous avez évoqué une semaine, enfin, on pourrait dire 2 semaines, 3 semaines. Oui. Il y a une telle accumulation d'événements que la conscience populaire enregistre un fait nouveau. La conscience populaire, alors c'est très parce que Montesquieu disait, c'est justement du peuple qu'il ne théorise pas, mais sent bien. Donc le commun des mortels n'est pas occupé à penser à la politique toujours, à la société toujours, mais à un moment donné, des faits s'accumulent et on enregistre une réalité nouvelle. Il y a un cran qui a été franchi dans la violence en France et c'est la violence, l'ultra-violence des mineurs, pour reprendre le terme un peu à la mode ces jours-ci. L'ultra-violence des mineurs. Donc, la conscience populaire enregistre les faits. Les politiques sont obligés de qualifier les faits. Mais comment les qualifier?
Et difficilement, déjà.
Ah non, vous allez voir à quel point ils sont rusés dans leur absence de ruse. Alors, comment les qualifier? Alors, on connaît la formule « faits divers ». Mais là, en ce moment, tout le monde sent bien que « faits divers », c'est un peu limité comme terme. C'est un peu insuffisant pour parler de la réalité présente. On a beau même dire « multiplication de faits divers », on sent qu'il manque quelque chose. Donc, comment qualifier ces événements? Eh bien, nos politiques, Valérie Ayer, par exemple, lundi soir sur CNews, dans son débat avec Marion Maréchal, a utilisé la formule, et elle n'est pas la seule, des crimes qui sont inqualifiables. Inqualifiables, c'est leur manière de les qualifier. Donc, le mot inqualifiable a une fonction ici, ça veut dire très, très grave. Tellement grave qu'on n'en trouve pas de mots. Et au même moment, très, très grave, mais j'évite de caractériser pour ne pas m'engager quand vient le temps d'en parler. Donc, je dis le mot inqualifiable pour témoigner de l'ampleur de ma peine, mais je ne dis pas ensuite fait divers sous le signe du crime d'honneur, fait divers sous le signe de l'islamisme conquérant, fait divers sous le signe de la punition envers les jeunes femmes qui décident de s'intégrer à la France. Donc là, on dit fait divers inqualifiable. Vous prenez une voix un peu plus grave à ce moment-là. Vous donnez un air un peu triste. Et à ce moment-là, vous croyez avoir traversé l'épreuve de la qualification. Mais ce n'est qu'une manière comme une autre d'être lâche. Il y a aussi, une fois qu'on traverse l'épreuve de la qualification, il y a le système de mise en place du déni. Alors, comment nier ce qui arrive tout en faisant semblant de ne pas le nier? La première méthode ces temps-ci, ça consiste à noyer l'événement dans un autre. Donc, est-ce qu'il y a de l'ultra-violence, comme on dit? Est-ce qu'il y a une violence aggravée chez les jeunes? Est-ce qu'il y a des crimes d'honneur? Est-ce qu'il y a un islamisme conquérant au quotidien? Non. Circuler, tout ce qu'il y a, c'est les réseaux sociaux. Blâmer TikTok, blâmer Snapchat, blâmer Facebook, blâmer ce que vous voulez, mais ne parlez pas du phénomène. Donc, vous devez parler avec un ton vaguement savant des réseaux sociaux qui ont complètement transformé nos vies. Ce qui est vrai, soit dit en passant. Mais quand on parle des réseaux sociaux et seulement des réseaux sociaux pour ne pas parler du reste, c'est une explication faussement savante qui, elle aussi, est le masque de la lâcheté. Vous pouvez aussi, comme le proposent certains politiques, je l'ai vu encore hier, nous dire en fait Vous avez l'impression que c'est identitaire. Vous avez l'impression qu'on est devant des crimes qui ont une dimension culturelle. Vous avez l'impression d'être devant un choc des civilisations au quotidien. Que nenni, détrompez-vous, tout cela est social, strictement social. Une porte-parole du Parti socialiste disait ça hier, nulle surprise. Mais vous avez toujours la possibilité de dire que rien ne se passe. Et ça, c'était l'option de Quotidien hier soir, qui mobilise des sociologues. Alors, vous savez, j'aime dire le plus grand mal de mes collègues qui portent ce titre académique, et avec raison, parce que la sociologie, pour moi, alors, il y a de grands sociologues, mais globalement, la sociologie, c'est quand même une entreprise qui relève de l'effondrement intellectuel, de l'effondrement de l'intelligence aujourd'hui. La sociologie est la science institutionnalisée du déni de réalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? Cette sociologie nous explique que rien ne se passe. Il y a eu... Non, rien ne se passe, A, mais ce qui se passe a lieu depuis toujours, B. Oui. Donc là, il faut savoir, est-ce qu'il se passe quelque chose ou ça se passe... Est-ce qu'il ne se passe rien? Ou est-ce que ça se passe depuis toujours? Et là, on nous explique qu'en fait, à travers tout le 20e siècle, il y a eu des violences de cette nature chez les jeunes. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien de neuf en ce moment. C'est tout à fait intéressant comme point de vue. Donc, évidemment, ces gens devraient quand même faire un effort intellectuel de non-contradiction. Soit il ne se passe rien, soit il se passe quelque chose depuis toujours, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Et l'idée, c'est de dédramatiser la violence, de la décharger de tout contenu de réalité, de présenter ça comme le fruit d'une manipulation médiatique et réactionnaire pour donner à tous l'impression, en fait, pour pratiquer une forme de diversion médiatique qui les éloignerait des vrais problèmes, probablement le changement climatique, le vivre ensemble et ainsi de suite. Donc, le réel devient... En fait, réactionnaire. C'est ça qui est assez particulier. Finkielkraut disait, il y a une vingtaine d'années, parlant de la montée du RN, du FN à l'époque, il disait, le principal carburant du FN, c'est qu'on lui a concédé le réel, disait-il. Donc, ils étaient les seuls à parler du réel. En parlait-il bien, en parlait-il mal, c'est une autre question. Alors que le système voyant se décomposer, en fait, le régime voyant se décomposer le système qu'il a produit, mobilise toutes ses ressources intellectuelles pour nous dire que ce qui arrive n'a pas lieu. Je précise que la technique du déni par rapport à la réalité ne touche pas que la question de l'insécurité. Par exemple, l'immigration massive, la submersion migratoire n'a pas lieu. La démographie nous l'a dit. La théorie du genre n'existe pas. Elle n'a pas lieu. C'est un autre fantasme réactionnaire. Donc, nous sommes au cœur du régime diversitaire qui congédie les faits qui contredisent le récit de la diversité heureuse. Et la fonction de Quotidien dans tout cela, c'est de présenter cela sur le mode ricaneur, sur le mode du divertissement, sur le mode de regarder les gros fachos réacs qui ne comprennent absolument rien et qui s'indignent lorsqu'un jeune se fait massacrer à 15 ans sur le mode du crime d'honneur. D'ailleurs, les crimes d'honneur n'existent pas. D'ailleurs, la réalité n'existe pas. Ce qui existe, cela dit, c'est Quotidien qui va vous dire quelle est la réalité.
Le débat s'est cristallisé, Mathieu Bocoté, autour du concept de crime d'honneur. On en parlera dans un instant avec Geoffroy Lejeune. Et que plusieurs contestent. Faut-il remettre en question ce concept, comme le propose Éric Dupond-Moretti?
Alors, je laisserai effectivement à Geoffroy l'analyse de toute la dynamique politique autour de ça. Je me contenterai, quant à moi, de voir de quelle manière Dupond-Moretti, dans les circonstances, Éric Dupond-Moretti, fin phraseur, on pourrait dire, maître des mots, remarquable jésuite, mais triste analyste des faits sociaux. Il nous dit que ce n'est pas un crime d'honneur, c'est un crime d'horreur. Et là, on est censé dire, oh, quelle trouvaille sémantique, quelle trouvaille intellectuelle. Ce qu'il est brillant, ce Dupond-Moretti. Peut-être un peu. Mais sur le fond des choses, c'est une manière de détourner le regard. Quand on dit crime d'honneur, on ne veut pas dire que ceux qui tuent ont de l'honneur et ils tuent pour des raisons honorables. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des systèmes de valeurs qui hiérarchisent différemment les valeurs, les principes, le rôle de la femme dans la société, le rôle de l'homme dans la société. Ces deux systèmes s'entrechoquent et un système se sent tellement terrifié à l'idée de perdre ses membres qu'il légitime la sanction, les violences, les punitions contre ceux, contre celles qui se déroberaient à ce système autoritaire, archaïque, et dans ce cas-là, vraiment patriarcal, pour le coup. C'est-à-dire pour tous ceux qui sont des chasseurs de sociétés patriarcales, quittez à l'instant les CA du CAC 40 et passionnez-vous pour ce qui se passe dans les banlieues. Vous allez avoir du travail pour longtemps, les amis. Fin de la parenthèse. Donc, crime d'honneur, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On nous explique que ça n'existe pas. Et la sociologie s'en mêle encore une fois, cette science de l'effondrement de l'intelligence. Que nous dit-elle? Elle nous dit, parler de crime d'honneur, ça consiste à culturaliser le crime. Ça consiste à lui prêter une dimension collective identitaire particulière. Or, ce n'est pas vrai, nous dit-on. On nous dit, en vérité, Le crime d'honneur, ce ne serait rien d'autre qu'un crime, le point d'aboutissement du continuum des violences présentes dans la société française. Donc, entre d'un côté le compliment « Bonjour mademoiselle, comment allez-vous » ça c'est le début de l'agression, jusqu'au crime d'honneur, c'est-à-dire massacrer un homme, massacrer une femme, il y aurait le continuum de l'agression présente dans la société française. Et là, c'est une folie quand même, pour ne pas dire une fraude intellectuelle, pour ne pas dire un déni de réel. Parce que qu'est-ce qu'on entend par crime d'honneur ici? Il s'agit tout simplement de dire que toutes les cultures n'ont pas le même rapport à la violence. Toutes les cultures n'ont pas le même rapport à la violence. C'est factuel. On va le dire même entre blancs, entre guillemets, si ça peut les rassurer. Les Français n'ont pas le même rapport à la violence que les Américains. Les Suédois n'ont pas le même rapport à la violence que les Russes. Est-ce qu'on a compris qu'on parle de culture ici, qu'on ne parle pas de race? Or, ce que l'on voit à l'intérieur de ça, c'est que dans certaines cultures, la violence est plus facile à mobiliser. Et l'émancipation des femmes n'est pas toujours autant tolérée ou valorisée. Et dans de telles circonstances, le crime d'honneur apparaît. Et il apparaît d'autant plus que des gens qui ne devraient pas vivre ensemble, vivent ensemble. Ça, c'est la partie oubliée. De ceux qui viennent de l'extérieur, d'une autre civilisation et qui arrivent chez nous, on n'a pas envie de vivre ensemble, on a envie qu'ils vivent comme nous. C'est-à-dire, vous arrivez chez nous, vivez comme nous. À Rome, on fait comme les Romains. Évidemment, quand le Romain doute de lui-même, c'est plus compliqué. Mais sur le fond des choses, la notion de crime d'honneur, on veut la congédier parce qu'on est incapable de prendre au sérieux les différences culturelles, parce qu'on est incapable de prendre au sérieux les différences de civilisation, parce qu'on est incapable de prendre au sérieux le choc des civilisations. Mais on est prêt à reconnaître, cela dit, une très grande violence, une seule société. La société française, qui, elle, serait celle du patriarcat terrifiant, de la culture du viol, de l'agressivité contre les femmes, ça, on peut en parler. Mais prêter des travers à d'autres cultures, ça, ce serait xénophobe.
Alors, comme celui qui a prononcé ses propos sur un crime d'honneur et d'horreur, c'est pas n'importe qui, on en parlera dans un instant avec Geoffroy Lejeune, puisque ça fait évidemment écho à ce sentiment d'insécurité. À vous entendre, Mathieu Bock-Côté, la société française vit dans un grand écart entre, d'un côté, un discours de déni, de l'autre une réalité qui le contredit sans cesse. Est-ce qu'une société peut faire longtemps l'expérience de cet écart sans entrer en crise?
Je voudrais que la crise, nous y sommes déjà depuis longtemps. C'est la grande erreur, en fait, des conservateurs. Je déteste pas l'étiquette. Les conservateurs pensent que la crise, c'est pour demain. Non, non, nous y sommes déjà. Je veux dire, vous êtes beaucoup trop optimiste si vous pensez que l'effondrement est pour demain ou après-demain. Nous sommes contemporains de l'effondrement, mais nous refusons de le vivre comme tel parce que nous sommes d'indécrottables optimistes. Mais ce qu'on pourrait appeler la décadence, prenons ce phénomène-là et inscrivons-le plus largement. La décadence, nous en sommes déjà contemporains. Je vais énumérer une série de phénomènes qui ne sont pas directement liés à l'hyperviolence, mais qui tous ensemble participent à ce sentiment de décadence que nous vivons aujourd'hui. Le viol des frontières, soit dit en passant, c'est lié avec ce que nous vivons aujourd'hui. Le viol des frontières, pensez aux colonnes de 2015 au moment de la crise des migrants syriens. La traversée brutale des frontières, pensez à ce qui se passe à Ceuta de temps en temps, l'enclave espagnole au Maroc. Les débarquements, organisés par des mafias, comme on peut le voir à Lampedusa. À l'échelle de l'histoire, on peut comparer ça au dernier moment de Rome, ou à tout le moins au siècle qui précède la chute de Rome. La multiplication d'enclaves étrangères, entre guillemets, dans un pays où s'exerce la loi des gangs, où s'exerce la loi des plus radicaux et qui enferme les gens de leur propre communauté qui voudraient s'intégrer à la France, ils sont enfermés dans des baronnies identitaires dont ils ne peuvent s'extraire. Donc, multiplication des petites souverainetés. La multiplication des narco-républiques, dont on parle assez souvent ici, avec raison. La dénaturation de la science dans l'anti-science, on est quand même dans cette époque où la sociologie nie le réel, où la biologie nie les sexes, où la démographie nie la submersion migratoire. Plus vous progressez dans les études universitaires et plus vous risquez de basculer dans le fantasme et la folie. C'est un problème. Le commun des mortels qui est écrasé, j'en parle souvent, par un État qui s'empare de tout, en fait, et qui laisse très peu d'oxygène au commun des mortels. Un État qui éduque en déséduquant la population, qui fait la promotion même de l'antiscience auprès des plus jeunes. Une souveraineté perdue, confisquée par un Bruxelles lointain, qui fait en sorte que la classe politique restante ici s'opère en gesticulation compensatoire. Un État très fort avec les faibles, hein, de temps en temps, quand vient le temps de cogner sur les militantes, cogner juridiquement, des militantes de Némésis, là, on a des moyens. Et puis l'État se donne toujours plus de moyens juridiques pour être capable de réprimer la dissidence. Quand vient le temps, cela dit, de cogner véritablement sur ceux qui défient non seulement l'État, mais qui agresse les Français et les Françaises au quotidien, on se montre plus pondéré et on explique que le réel, encore une fois, n'existe pas. Donc ce régime rend fou. Je pense que ce régime rend fou parce qu'il nous explique sans cesse que ce qui arrive n'arrive pas, ou que ce qui n'arrive pas arrive. Et là, qu'est-ce que fait le commun des mortels devant ça? Mais il ment. Il ment. Publiquement, il dit une chose et pratiquement, il vit autrement. Publiquement, on joue à l'homme de gauche éclairé dans certaines émissions d'affaires publiques sur le mode du divertissement. Et en privé, je devine qu'on ne se presse pas pour aller vivre dans les endroits dont on fait les louanges tous les jours. Je suis persuadé que certains des grands animateurs progressistes qui occupent la vie publique aujourd'hui ne sont pas particulièrement enthousiastes à l'idée d'aller vivre dans les quartiers dont ils se veulent les plus grands défenseurs. Nous sommes dans une société qui produit de la schizophrénie politique, de la schizophrénie collective. Nous sommes dans une société qui est coupée de sa réalité.
Coupé de sa réalité. Charlotte Dornelas, on parle de ce sujet, de la banalisation de la violence depuis le début de la semaine. Et plus les jours passent, plus on a l'impression qu'on continue dans cette banalisation, on continue dans ce déni de la réalité. Comment l'expliquer ?
Ouais, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, à chaque fois que ça se répète, et plus ça se répète, même plus il y a la crainte de devoir voir en fait ce que la réalité leur donne à voir. C'est-à-dire que quand vous avez nié quand vous avez nié l'existence même de conséquences aux causes que vous adoptez, à tout ce que vous encouragez, quand vient le temps des conséquences, c'est votre château entier, mais même personnellement, qui s'effondre. Il faut quand même beaucoup d'humilité. On avait parlé de cette ministre, je ne sais plus de quel pays, je ne veux pas faire d'erreur, qui a demandé pardon, qui a dit vraiment on s'est trompé en réalité, notamment sur l'accueil, l'accompagnement sur le terrain de l'immigration, oui, et sur les conséquences que ça avait. Je veux dire, on est tous restés, on s'est dit, oui, elle sort d'où, elle a été élevée où, un ministre qui demande pardon, oui, pour s'être trompé. C'est inimaginable. C'est vrai dans la sphère médiatique, c'est vrai dans les sphères de responsabilité de manière générale. Et plus ça s'intensifie, plus la population comprend, plus il faut lui expliquer qu'elle se trompe, évidemment.
C'était une députée suédoise.
Suédoise.
Guillaume Bigot et ensuite Geoffroy Lejeune.
J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Mathieu, ce qui est très vrai. Il y a un rapport différent en fonction des cultures à la violence. Mm-hmm. Et le phénomène de décivilisation qu'on vit, qui affecte autant la culture occidentale que les cultures importées de l'extérieur, on pourrait faire d'aggraver la violence des cultures importées et d'effondrer, je dirais, le rapport non pas à la violence mais à la force. Parce que la violence, c'est comme la sexualité. Ça existe dans le monde et dans la vie. Et donc une société normale, elle doit apprendre à transformer la pulsion sexuelle en amour. Elle doit en faire quelque chose. Ça s'éduque. La violence, faire face à la violence, dans n'importe quelle société humaine, on apprend aux gens à être courageux et à faire face à la violence. Ici, on apprend à s'effondrer sur soi. On apprend à être une victime. On n'est plus capable, on est totalement désemparé et désarmé. Donc il y a bien un point aveugle, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de violence, mais de l'autre côté, les gens savent de moins en moins y faire face et se défendre.
Dans ce que Mathieu a décrit comme étant, vous savez, l'entreprise de négation du réel par les médias et notamment par Quotidien, puisque cet exemple a été pris, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'une partie importante, peut-être encore majoritaire des médias aujourd'hui, se sont fait profession d'expliquer que ce qu'on voit n'existe pas. Et ce qui est intéressant, et je pense que c'est l'affrontement des affrontements qu'on est en train de vivre en ce moment, d'autres médias se sont rendus compte que ça n'était pas le cas et se sont fait profession de faire l'inverse. C'est-à-dire de dire, vous avez vu ça, et ben regardez, ça existe. Et de l'étayer et de le détailler et de l'expliciter. Et aujourd'hui, vous constatez que la bataille entre les premiers médias et les seconds médias est plus violente encore que l'affrontement politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment là que ça se joue.
Très intéressant, très intéressant. On continuera à parler dans un instant avec vous et l'analyse justement de ces propos du garde des Sceaux. Dans un instant, on va recevoir Jordan Bardella, tête de liste de RN aux européennes. Le pacte, à propos du pacte migration, asile et migration qui a été enfin, on va dire enfin voté, mais est-ce que... Non, mais parce qu'on en parle depuis très longtemps.
Enfin, le souffle de la guillotine.
Ah. Oui, alors justement, on va essayer de voir ça avec Jordan Bardella dans un instant. Efficacité ou perversité, on lui posera la question. Alors, rappelons quand même qu'il a été donc adopté au Parlement il y a moins d'une heure. C'est un texte qui vise à aider l'Union européenne à gérer l'immigration en forte hausse. Par exemple, en 2023, on avait une hausse des demandes d'asile qui a atteint 1,14 million de demandes. Ce texte est supposé durcir les contrôles des arrivées aux frontières de l'Union européenne. On verra avec Jordan Bardella ce qu'il en pense. Ce texte est supposé mettre en place un système de solidarité entre États membres. Alors, c'est très critiqué, ce système de solidarité, ce qui a suscité plusieurs oppositions, mais c'est intéressant, opposition de la gauche comme de la droite. Tout le monde n'a pas voté le texte. D'ailleurs, je vais vous dire qui a voté le texte. Alors, bien sûr, les macronistes ont voté le texte. LR n'a pas voté le texte. RN n'a pas voté le texte. PS, LFI, Écolo, une partie des socialistes n'ont pas voté le texte. C'est intéressant, Mathieu Bocoté.
Pour des raisons contrastées. Écolo, une partie des socialistes, tout ça considère que c'est un pacte exagérément contraignant. C'est quasiment la figure de l'État autoritaire pour contenir l'immigration massive. Et de l'autre côté, à droite, plusieurs considèrent que c'est tout simplement insuffisant, que ça limite la souveraineté des États pour lutter contre l'immigration massive, sans donner à l'Europe les moyens de le faire. Donc au final, deux raisons contradictoires de s'opposer au même texte.
Alors, un plan de contexte avant de recevoir Jordan Bardella. 2015, on se rappelle de la vague d'immigration au niveau de l'Union européenne. On s'est dit qu'il fallait un autre texte. Ça a pris un petit peu de temps quand même. On arrive à cet autre texte. Que dit ce texte? Est-il efficace? Est-il vraiment concret? Va-t-il aider l'Union européenne et les États membres, notamment à faire face à cette vague migratoire que nous subissons? Réponse dans un instant. À tout de suite. 19h30, retour sur le plateau de Face à l'Info en direct. On doit avoir Jordan Bardella d'un instant à l'autre en direct depuis Bruxelles. On a un petit problème d'image. Si quelqu'un peut envoyer un SMS à Jordan Bardella pour lui dire qu'on a un petit problème d'image, de se décaler ou j'en sais rien, nous vivons tout en direct. Tenez-moi au courant. L'oreillette, ça sert à ça, c'est pas Yann Barthès. Pour pouvoir effectivement savoir lorsque l'image est... Et diffusable ou pas. Est-ce qu'on a des infos ou pas pour l'instant pour la diffusion de l'image de Jordan Bardella? Toujours pas pour l'instant. On va faire un tour de table à propos donc de toujours ce pacte en attendant Jordan Bardella, ce pacte asile et migration donc qui a été adopté au Parlement européen il y a moins d'une heure. Alors c'est intéressant parce que Fabienne Keller, elle dit que ce texte constitue un pas en avant. C'est intéressant. Alors Fabienne Keller, on va l'entendre, elle est centriste, députée européenne, française, centriste renaissance, centriste et libéraliste. On l'écoute.
Ces différents instruments législatifs permettront à l'Union européenne d'être mieux préparée pour répondre aux principaux enjeux de l'immigration. Ce pacte ne résoudra pas tout, mais c'est un pas en avant, un pas de géant vers un réel contrôle et une bonne gestion humaine de l'immigration en France, en Europe et sur notre continent.
Retour sur le plateau de Face à l'Info. Jordan Bardella, est-ce que vous êtes en ligne avec nous finalement? Est-ce que ça fonctionne, l'image? Voilà, vous m'entendez. Bonsoir Jordan Bardella. On vient d'entendre Fabienne. On avait un petit souci d'image.
Bonsoir, Madame
Kelly. Ravi de vous avoir en direct sur notre plateau depuis Bruxelles. Alors ce texte, PAC sur
l'Europe,
la...
ça fonctionne pas encore très bien, mais on y travaille.
Oui. On ne fera jamais, j'espère.
Calmez-vous, Guillaume Bigot, calmez-vous. Alors le pacte sur la migration et l'asile donc, a été adopté au Parlement européen il y a moins d'une heure. Alors on parle de pacte historique. Selon vous, efficacité ou perversité? Ou j'ai même envie de vous demander directement pourquoi vous êtes contre.
Ah bah c'est effectivement un pacte qui va être efficace dans le sens de plus d'immigration. Ce texte, il était soutenu depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années par Emmanuel Macron et par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et les Français doivent retenir de ces longues heures de débat parlementaire que ce texte prévoit la répartition obligatoire des migrants qui vont franchir les portes de l'Union européenne dans nos communes, dans les communes des États membres, dans nos villes, dans nos villages. Et pour les États membres qui refusent cette répartition obligatoire de migrants, il y aura des sanctions financières qui iront jusqu'à 20 000 euros par migrant que donc les Français, l'impôt du contribuable devra donc financer. Moi, je me suis opposé à ce pacte. Nous sommes le seul groupe d'ailleurs à s'être opposé à ce pacte. Je suis la seule tête de liste dans ces élections européennes à avoir combattu ce texte. Mes concurrents de Reconquête ou des Républicains ont voté la prise en charge des migrants aux frontières de l'Union européenne en bannissant totalement la possibilité de faire du refoulement. Donc c'est un pacte pour la submersion migratoire et je donne rendez-vous aux Français le 9 juin pour se faire entendre et pour faire entrer un maximum d'eurodéputés ici à Bruxelles et à Strasbourg qui luttent contre l'immigration massive qui est peut-être le plus grand défi existentiel qui se pose à la France et à l'Europe.
Alors le texte, on dit quand même qu'il durcit les contrôles des arrivées aux frontières, oui ou non selon vous? Vous êtes vraiment contre, mais est-ce qu'il ne durcit pas quand même? Même un petit peu?
Non, je tiens à clarifier, il n'y a pas de durcissement. En fait, ce texte prévoit par un dispositif qui s'appelle le filtrage, qui est en fait un dispositif d'accueil et de prise en charge. Il bannit totalement la possibilité de refouler les migrants qui arrivent à la frontière et prévoit la prise en charge automatique à la frontière intérieure de l'Union européenne des migrants ou des éventuels demandeurs d'asile. Moi, je défends une solution qui est radicalement différente, qui est la seule en réalité qui doit nous permettre de nous protéger d'un afflux de plus en plus important, c'est le traitement des demandes d'asile dans les ambassades et consulats français à l'étranger, parce qu'en acceptant le principe de traiter les procédures d'entrée sur le territoire de l'Union européenne à l'intérieur de nos frontières, on crée en fait les conditions d'un traitement qui est parfaitement ingérable compte tenu du flux. Je vous rappelle que l'année 2023 a été l'année de tous les records et que le nombre d'entrées sur le sol européen par la route migratoire de l'Afrique de l'Ouest a augmenté de 541%. Donc voilà, l'Union européenne et Emmanuel Macron veulent répartir les migrants dans nos communes. Moi, je veux les faire repartir.
Donc pour vous, filtrage égale prise en charge. Mathieu, votre côté veut vous poser une question.
Alors Jordan Bardella, vous dites que ce pacte migratoire organise la submersion migratoire, ce sont vos mots. Est-ce que vous diriez qu'il favorise, qu'il planifie la submersion migratoire dont vous parliez plus tôt ?
Oui, à l'évidence, pour Emmanuel Macron et les institutions européennes, et c'est d'ailleurs pour cela que les Français doivent aller voter le 9 juin, pour eux, l'immigration n'est pas un problème, elle est un projet. Et je ne compte plus le nombre de déclarations du président de la République, comme évidemment des institutions ici européennes, qui encouragent cette immigration massive, parce que leur projet, précisément, c'est la submersion de l'Europe et c'est le remplacement de facto d'une partie de la population européenne par des populations qui viendraient d'ailleurs. Je pense que l'immigration est le défi existentiel le plus important qui se pose à nos sociétés, parce qu'il remet en cause notre sécurité, notre identité, évidemment la vitalité de nos services publics et l'équilibre des comptes publics, et que se dresse en face de nous un continent africain qui va passer d'ici à 20 ans d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants. Donc le choix, il est très clair. Soit on accepte cette ruée vers l'Europe, c'est le choix de la Commission européenne et de M. Macron, soit on décide de s'en protéger. Et moi, je fais le choix de la frontière, de la limite et du retour à la raison sur la gestion de l'immigration après 40 années d'excès sur ce sujet.
La dernière question, Jordan Bardella. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais là, c'est tout ça pour ça. Qu'est-ce qui va se passer après ? On a vu cette vague migratoire en 2015. On a attendu tellement longtemps ce texte qui vient d'être voté. Que va-t-il se passer maintenant ?
Je pense qu'à l'égard de l'immigration, nous menons une course contre la montre, une course contre le temps. Je pense que nous sommes en France le seul mouvement politique qui est aujourd'hui en capacité d'abord de remporter les élections européennes, demain de remporter l'élection présidentielle et d'inverser le cours de l'histoire. Mais le temps nous est compté et les vagues migratoires comme la démographie aujourd'hui française et européenne nous imposent ce défi existentiel et il faut permettre précisément au peuple de reprendre le contrôle. Moi, je défendrai dans le cadre de ces élections européennes le principe d'une double frontière, c'est-à-dire des contrôles évidemment aux frontières françaises, la possibilité de faire du refoulement aux frontières de l'Union européenne, mais aussi un grand référendum sur la question de l'immigration en France, parce qu'il faut rendre la parole au peuple français. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on impose au peuple français une politique migratoire qui ne correspond pas à ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français. C'est une immigration de fait accompli que les peuples aujourd'hui refusent. Et je serai précisément dans ces élections européennes le candidat de la France qui ne peut plus et ne veut plus prendre sa part en matière d'immigration.
Merci Jordan Bardella pour cette réaction en direct à ce vote historique du pacte migratoire, asile et migratoire. Alors on sent quand même que derrière ces critiques, c'est une sorte de perte de souveraineté des États qui est en train de s'imposer.
Bon, d'abord, je pense qu'il n'y a rien d'historique dans l'Union européenne puisque c'est une destruction, enfin c'est un retrait de l'histoire, c'est un épate de l'histoire. Mais par ailleurs, je pense que dans l'ADN de l'Union européenne, il y a le refus des frontières. Et il traite de la même façon les capitaux qui doivent circuler librement, par exemple les produits chinois frelatés, sponsorisés, dumpés, arrivent chez nous, ou les matières premières agricoles dumpées, pleines de produits chimiques, de cochonneries, arrivent chez nous sans aucune frontière. De la même façon, l'immigration arrive chez nous sans aucune frontière. C'est-à-dire, c'est dans l'ADN de l'Europe.
Charlotte Dornelas, j'ai l'impression que, un peu comme la loi, ici, en France, dont on a beaucoup parlé, qui a accouché d'une souris, j'ai l'impression qu'on arrive au même phénomène. S'il faut croire à la fois Jordan Bardella et à la fois la gauche radicale qui n'a pas voté le texte.
Vous avez deux manières en fait, d'élargir le terrain sur lequel Gérald Darmanin, en l'occurrence, mais le ministre de l'Intérieur de manière générale, peut agir en France. Soit vous renversez les règles par le biais du référendum, en effet, soit vous renversez les règles au niveau européen, puisque tout se décide, en l'occurrence, sur ce terrain-là, au niveau européen. Parce qu'il y a deux choses qui sont à retenir, on va dire, dans la philosophie de ce pacte asile et immigration. C'est un, en effet, à partir du moment où quelqu'un, individuellement ou en groupe, franchit n'importe quelle frontière de l'Union européenne, vous êtes obligé d'examiner son cas.
Oui.
Et ensuite, vous savez très bien ce qu'il arrive, une fois que ces personnes sont déboutées de l'asile, je note que dans le pacte, en compensation de quelques durcissements dans ces règles-là, donc de durcissement de contrôle, la question du filtrage, vous avez un nombre de recours qui a augmenté dans ce pacte, par exemple, donc des recours individuels contre la règle commune. Mais je note toutefois que même les autorités européennes, qui pourtant nous expliquent à quel point l'immigration est une chance pour l'Union européenne, on en est encore là, on va dire, dans les discours au niveau de l'Union européenne, même eux, quand il faut vendre le pacte aux peuples européens, vous voyez sur quoi ils insistent ? Sur le durcissement, le rétablissement des contrôles aux frontières, uniquement. C'est à noter quand même.
Et lorsqu'on lit entre les lignes, certains critiquent que le pacte donne plus de place encore aux ONG immigrationnistes dans la gestion des migrants. Lorsqu'on lit entre les lignes, certains dénoncent cela. Je parlais aussi de la perte de souveraineté et que ce texte, a priori, selon Jordan Bardella aussi, ne règle pas donc le problème des traversées de la Méditerranée et acte le fait qu'on ne pourra pas refouler. Donc, filtrage égale prise en charge. À suivre, texte historique. Merci en tout cas pour cette page sur ce pacte qui a été voté. Revenons en France avec ce crime d'honneur qui n'existe pas, selon Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qu'il a exprimé à l'Assemblée nationale hier. Il dit que c'est le crime d'horreur qui existe. Et à propos du meurtre de Shemseddine à Viry-Châtillon, est-ce que ce commentaire est à la hauteur des faits, à la hauteur du moment, à la hauteur de la fonction ?
Je pense que ce commentaire est à la hauteur. Le déni dont fait preuve le ministre de la Justice est à la hauteur de la gravité de ce qui s'est passé. En fait, je vais essayer pendant toute cette chronique de traduire le ministre de la Justice. La vraie phrase qu'il aurait dû prononcer, c'est « il ne devrait pas y avoir de crime d'honneur, on ne devrait parler que de crime d'horreur ». Ça, c'est ce qu'il a voulu dire en réalité. Le problème, c'est que cette phrase, c'est un vœu pieux, on le sait très bien, et on sait que malheureusement, ces crimes atroces, sordides existent. On sait aussi qu'il existe des gens sur notre territoire qui commettent des crimes d'honneur, ou en tout cas qui ont conçu dans leur schéma mental le crime d'honneur, oui, avec tout ce que cette phraséologie révèle d'horrible, évidemment, que le petit Shemseddine est mort, évidemment, de ça. Et ça dépend en réalité dans où est-ce qu'on met l'honneur. En l'occurrence, les assassins de Shemseddine mettaient l'honneur dans les conversations que leur petite sœur pouvait avoir avec lui. Ça, c'est le réel, malheureusement. Ça, c'est le réel. Le réel, c'est aussi les images de l'enterrement qu'on a vu hier. Et la phrase du ministre de la Justice est un peu éloignée du réel. Elle permet d'ailleurs de tirer le fil en réalité de ce qui permet que les yeux dans le débat public sur ce sujet restent grand fermés. Tout à l'heure, Mathieu nous a fait l'aveuglement médiatique, qui est évidemment volontaire, et il y a une crispation du débat en ce moment sur ces sujets-là. Moi, je vais essayer de vous décrire l'aveuglement politique. Mathieu en a un peu parlé, mais j'ai d'autres arguments d'un grand aveuglement politique qui conduit en fait à ce qu'on ne change jamais rien sur aucun des sujets dont on parle. D'abord, la première des choses, la base même de cet aveuglement, c'est d'éviter qu'on utilise les bons termes, ce qui permettrait de faire le bon diagnostic. Éric Dupond-Moretti, je vais beaucoup m'appuyer sur ses déclarations parce qu'il n'est pas seul, rassurez-vous, mais il a jalonné, disons, l'histoire politique qui est pourtant récente, hein, ça a commencé en 2020, de quelques déclarations qui sont assez frappantes et qui ont été des très très bons exemples. Il a dit, quand il était déjà garde des Sceaux, il a dit « la France n'est pas un coupe-gorge ». On se rappelle de cette phrase qui avait fait beaucoup parler, et j'ai envie de lui répondre, si, la France est un coupe-gorge, c'est un endroit où on peut se faire couper la gorge par un couteau, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs au petit Thomas, à Crépol, on en a beaucoup parlé, j'y reviendrai. Le Figaro dit qu'il y a 120 attaques au couteau par jour, les médias type quotidien disent « non, c'est pas vrai, ce chiffre est complètement faux, c'est ridicule, vous pouvez pas dire ça, etc. » En attendant, c'était basé sur une étude statistique et ça a été depuis répété par d'autres spécialistes. Et c'est aussi le cas du La France coupe-gorge de Romans-sur-Isère où hier soir, après l'intervention de Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale, hier soir encore, un jeune est décédé des suites d'un coup de couteau. Donc oui, la France est un coupe-gorge. Il a aussi prononcé une phrase exceptionnelle qu'on doit d'abord dans un premier temps à Lionel Jospin, mais qu'il a reprise à son compte. Il n'y a pas d'insécurité, mais il y a un sentiment d'insécurité. Ça aussi, très marquante. Tous les jours, on voit des faits divers de plus en plus sordides. Et surtout, les chiffres parlent, puisqu'on n'arrête pas de nous expliquer que non, les chiffres ne disent pas ça. La fameuse théorie de Mathieu sur les statistiques. Moi, je vais vous épargner le détail. En revanche, je vous invite à aller suivre les travaux d'un statisticien qui s'appelle Marc Marc Vanguard, qui sur Twitter, en ne se basant que sur des données officielles, publiques, type l'INSEE, le ministère de l'Intérieur, etc., fait un travail exceptionnel. Et je pèse mes mots, je travaille souvent grâce à ces chiffres. Et notamment...
Marc Vanguard,
il est déjà très suivi en réalité, parce qu'il fait quelque chose que justement les médias qui veulent nier le réel ne font plus. Et il met en perspective, il reprend les chiffres, il les met en perspective avec des graphiques qui montrent l'augmentation justement. Sur le cas particulièrement de l'insécurité et de la délinquance, il a montré très récemment, à partir des chiffres de 2023, l'explosion des tentatives d'homicide notamment et des coups et blessures volontaires. Donc vous avez des manières statistiques. En réalité, on peut faire mentir les statistiques en permanence. D'ailleurs, c'est une donnée très connue dans le débat public. Lui, en l'occurrence, vous les donne brutes et vous montre l'évolution année après année. Et vous pouvez toujours dire que oui, à l'époque de la guerre des boutons, les enfants étaient très violents. Vous voyez qu'aujourd'hui, en réalité, on est dans quelque chose qui n'a aucune commune mesure. Tout ça, donc, est précis et documenté. Mais utiliser les mauvais termes pour utiliser le mauvais diagnostic, ça peut passer par autre chose. Ça peut aussi passer par l'euphémisme permanent. Emmanuel Macron, par exemple, souvenez-vous, Macron l'a évoqué tout à l'heure, mais parlait après les...
Nous donne une promotion.
Pardon. Mathieu, en parlant d'Emmanuel Macron, a évoqué tout à l'heure cette formule qui nous avait fait sursauter. On en avait parlé d'ailleurs à l'époque tous les deux. Après les émeutes, il parle des réseaux sociaux et des jeux vidéo, ou encore de l'oisiveté. Ça aussi, ça vous a marqué. Bref, alors que tous les experts sérieux, type Jérôme Fourquet, Pierre Brochand, vous expliquent l'insécurité par une sécession identitaire des banlieues. Bref, c'est pas une erreur de jugement, ça s'appelle un mensonge.
Un mensonge, mais le mensonge, est-ce que c'est ce qui évite de voir le réel?
Alors c'est fait même pour qu'on évite de voir le réel. Il y a plusieurs manières là aussi d'empêcher de voir le réel. On peut aussi criminaliser celui qui le décrit. Très rapidement, les magistrats à Marseille, ça s'est passé il y a quelques jours, ils sont auditionnés sous serment au Sénat, ils viennent décrire leur réalité, ils disent qu'on est en passe de perdre la guerre contre la drogue à Marseille. Qu'est-ce qu'il fait lui en visite avec le président à Marseille? Il les prend, il les enferme à huis clos, il leur passe un savon, c'est ce que eux décrivent en sortant, et il leur dit « je n'aime pas le discours de défaitisme ». Il dit pas ce que vous dites est faux, il dit « je n'aime pas le défaitisme ». Ça c'est la première manière. La deuxième, c'est culpabiliser celui qui va essayer de dire le réel en l'accusant d'accentuer les fractures. Là aussi je prends quelques exemples. Il avait dit une phrase exceptionnelle à propos de la cagnotte de soutien aux policiers qui avaient tué Naël. Il avait dit « je ne suis pas sûr que cette cagnotte aille dans le sens de l'apaisement ». En réalité, on se demande qui est fautif entre ceux qui donnent de l'argent pour aider une famille de policiers ou bien celui qui refuse d'obtempérer ou bien ceux qui déclenchent des émeutes. À l'époque, sa critique était allée à cette cagnotte. Vous connaissez par cœur, Christine, et tout le monde ici d'ailleurs connaît les mots qu'on utilise à chaque fois pour ceux qui essaient de décrire le réel. On les appelle les incendiaires, on dit qu'ils soufflent sur les braises. On dit qu'ils font de la récupération, on dit qu'ils surfent sur les haines et on s'intéresse jamais au fait de savoir si ce qu'ils disent est vrai.
Alors, mais n'essaie-t-on pas aussi d'empêcher le débat sur les solutions ?
Le débat sur les solutions, c'est là le plus intéressant en réalité, parce qu'en effet, tout ça est fait pour qu'on n'ait jamais le débat sur les solutions.
C'est ça.
Je reprends un exemple, allez au hasard, je prends Éric Dupond-Moretti. Pendant les émeutes, il édicte les règles du bon parent, et il envoie un flyer à destination des parents d'émeutiers pour expliquer, dit-il, en des termes simples à l'époque, pour ceux qui les auraient oubliés, quelles sont leurs obligations. Là, c'est l'infantilisation à outrance et le détournement même du problème. En fait, le sujet n'est pas de savoir si les parents ont bien éduqué leurs enfants, etc. Ça joue un rôle évidemment dans la dérive de ces enfants, mais sur le coup, en fait, on demande juste une justice, et en l'occurrence une justice des mineurs pour la plupart, un peu plus sévère. C'était ça le sujet. Emmanuel Macron, quand il parle des jeux vidéo et des réseaux sociaux, c'est un peu la même rhétorique. En réalité, il aurait pu parler d'immigration et de trafic de drogue. C'est sûr, c'est moins glamour, mais au moins, on était un peu plus dans le réel. Éric Dupond-Moretti, encore, une dernière fois, au moment de l'affaire Lola, vous souvenez de ce documentaire hallucinant sur le service public, sur la fabrique, exactement, la fabrique
du
mensonge et de la récupération. Lui, il parle d'instrumentalisation. Et pour répondre à ceux qui, et il y en a peut-être sur ce plateau, avaient pu être un peu attristés du fait que si on avait exécuté l'OQTF de la meurtrière de Lola, peut-être que Lola aurait été épargnée, n'aurait pas été assassinée, voilà ce qu'il dit. Pour ces gens d'extrême droite, c'est une belle opportunité, ils en font leur miel, ils se régalent de ça comme des charognards. Et il ajoute, il dit que c'est un syllogisme absolument effrayant de dire que l'exécution de l'OQTF aurait pu empêcher le drame, parce qu'il y a des degrés d'urgence dans l'OQTF, on le sait parfaitement, et puis, je cite toujours le garde des Sceaux, il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé. Et pour moi, c'est le point d'aboutissement, et j'ai essayé de vous faire le schéma. Il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, ça veut dire on ne pouvait rien contre ce meurtre. Je traduis donc ce qu'il a essayé de nous dire. On ne peut rien faire, on ne peut rien empêcher. On ne peut pas agir en réalité. Mais n'écoutez pas pour autant ceux qui vous disent qu'on pourrait agir parce que ce sont des monstres, parce que leurs idées sont mauvaises, parce que leur diagnostic est faux, parce que leur solution ne serait pas bonne. Finalement, c'est assez efficace. J'appelle ça le grand aveuglement. On peut aussi dire que c'est un peu la dernière ruse du système.
Merci infiniment, Geoffroy, pour votre excellente analyse. Il n'a pas sonné votre téléphone, il ne vous a pas appelé le ministre, non ?
Pas encore, ça viendra.
Alors, Guillaume Bigot, on passe à vous avec l'État islamique au Khorassan qui a menacé les quarts de finale de la Ligue des Champions en mentionnant quatre stades européens et en postant des photos avec la légende Kill them all, c'est-à-dire qu'il faut tous les tuer. Il reste deux matchs ce soir, un à Madrid et un à Paris au Parc des Princes. Que faut-il penser de ces menaces ? Ensuite, on ira sur les JO.
Bon, d'abord, avant de penser, on va essayer d'envoyer des bonnes ondes et de croiser les doigts pour pas qu'il se passe quoi que ce soit. Ce soir,
Gérard Darmanin reste positif. On en parlera tout à l'heure.
Écoutez, c'est d'abord inquiétant parce que c'est authentifié. L'organe de communication, c'est la fondation Al-Azaïm. C'est bien le média officiel de l'État islamique au Khorassan. Ensuite, c'est vrai que c'est assez inédit et perturbant parce qu'on se dit pourquoi un groupe terroriste va annoncer à l'avance le jour et le lieu où il va frapper. Ça permet, même s'il y a plusieurs lieux, ça permet de neutraliser plus facilement. En fait, il y a une certaine logique là-dedans. Parce que d'abord, s'ils arrivent tout de même à frapper, enfin, imaginons que ce soit un commando structuré comme le 13 novembre, et qu'ils arrivent à frapper, ce sera un signe de puissance. Il faut dire aussi que les stades, c'est pas la première fois qu'ils sont visés. D'abord, le 13 novembre avait commencé au Stade de France. Il y a eu aussi une attaque le jour où il y avait un match, le 16 octobre à Bruxelles. Il y a deux supporters suédois qui ont été assassinés par un djihadiste. Et par ailleurs, si Il n'y a pas de commando qui est prêt, mais que l'État islamique au Khorassan dit ça peut donner des idées à des gens qui spontanément vont agir. Vous savez, par exemple, le terroriste de Bir Hakeim, là, il n'est pas nécessairement prévu le matin d'agir. Donc ça peut déclencher une action spontanée. Et si rien ne se passe, pour eux, c'est pas un enjeu, si vous voulez, la crédibilité. Ils auront au moins effrayé, c'est quand même leur but, et ils auront au moins mis sous tension le système. Voilà. Mais on peut dire qu'on est quand même à 30 jours de l'arrivée de la flamme des Jeux Olympiques à Marseille, et on est à moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture. Donc c'est une sorte de carte postale assez sinistre et assez cynique que nous envoie l'État islamique.
Carte postale cynique, est-ce que cela augure mal de la sécurité des JO ?
Alors si on en croit le ministre Gérald Darmanin qui veut rester optimiste justement et qui s'est exprimé dans le Parisien, non. Lui, il est très serein. Alors peut-être que cette sérénité, je ne dis pas qu'elle est surjouée, mais elle peut avoir une dimension politique parce qu'il faut se rappeler que Gérald Darmanin, il était vent debout, enfin pas vent debout, mais il avait beaucoup de réserves à l'égard de cette cérémonie d'ouverture grandiose, XXL, extraordinaire, avec 600 000 personnes à ciel ouvert au bord de la Seine. On a chuchoté aussi que la DGSI n'était pas tout à fait fan et même avait conseillé fortement à la tête de l'exécutif de revoir le site dans lequel ça allait se dérouler pour des raisons évidentes de sécurité. Et donc là, Gérald Darmanin, alors même que le président de la République commence à envisager un plan B, Gérald Darmanin, lui, il a une posture et une pose très sereine. Mais on comprend qu'elle est politique. Quand on lit l'interview, le journaliste du Parisien lui pose la question « À partir de quel seuil d'alerte, monsieur le ministre, on déclenchera un plan B ?» Et là, Darmanin répond « Oh, si nous avions des menaces caractérisées et imminentes, nous appliquerions les décisions que prendrait le président de la République. » Autrement dit, tu l'as voulu, ta cérémonie très dangereuse, c'est maintenant à toi de porter le chapeau, si tu veux, non pas l'annuler, mais revoir le site.
C'est ça.
Il affiche sa confiance dans un dispositif qu'il faut dire qui est vraiment absolument inédit, qui est en mesure, notamment pour la cérémonie d'ouverture à Paris, de faire avec l'immensité de la foule, 600 000 personnes, on l'a dit, et l'immensité du parcours, c'est quasiment toute la Seine à l'intérieur de Paris. Il va y avoir donc un dispositif de filtrage absolument incroyable, avec, on le sait, des bulles, de l'intelligence artificielle, des QR codes, etc. Et il va y avoir un effet de masse, 45 000 forces de l'ordre. Ensuite, la dimension tridimensionnelle de la menace, on voit sur la carte, il y a des zones qui vont être interdites à la circulation, d'autres la circulation va être possible mais très limitée, et puis il y a des zones où il faudra montrer patte blanche, son QR code, ou être enregistré auprès de Paris 2024. Alors l'épreuve pour M. Darmanin que ça peut marcher, c'est d'abord que les délégations israéliennes et américaines les plus visées et les plus tatillonnes en matière de sécurité n'annulent pas. Deuxièmement, il dit, regardez, on a bien réussi à sécuriser la Coupe du Monde au Qatar, et notamment l'armée de l'air avec les drones, et ça s'est bien passé. Donc il rappelle que le risque zéro n'existe pas, mais il a l'air d'être tout à fait serein.
Alors le prix à payer pour sécuriser les JO est-il acceptable ?
Je pense qu'il faut d'abord poser la question aux gendarmes, aux policiers, aux militaires qui seront, bah, aucune vacance, mobilisés à 100%.
Ils ont une petite prime quand même, mais bon.
Oui, il y en avait beaucoup déjà qui les attendaient, qui auraient dû être payés depuis longtemps. Mais sans polémiquer, je pense que c'est là, pour le coup, M. Darmanin dit oui, mais on va assurer la sécurité non seulement dans les zones olympiques, mais partout ailleurs en France. Il dit à Montauban et à Tourcoing, il y aura la même sécurité que n'importe quel moment. Ben, en fait, non, je pense que c'est pas possible de sécuriser les zones olympiques. Et en plus, il n'y aura pas que Paris. Il y aura Lille, il y aura Bordeaux, Marseille, Nice. Il y aura même des épreuves dans les dom-tom. Donc, pour que ça fonctionne, il faut vraiment concentrer. Il faut faire un effet de masse. Donc, ça veut dire qu'il y aura des trous dans la raquette. Deuxièmement, il y a un quadrillage absolument incroyable. C'est du jamais vu. C'est quand même au prix de la liberté de circulation des Parisiens. Si Général de Gaulle revenait, il dirait Paris scanné, Paris paralysé, Paris vidé. Et Madame Hidalgo est même obligée de dire, j'ai dit que je faisais le Marc Menant jusqu'au bout, bon. Anne Hidalgo est obligée de dire, restez là, les Parisiens, ne partez pas, tellement c'est un tue-l'amour ces Jeux Olympiques. Et quant à la fête populaire, excusez-moi, on repassera pour la fête populaire, 600 000 spectateurs, je veux bien, mais j'ai fait le décompte, alors il y aura 104 000 personnes qui auront des billets payants ultra chers, donc ce sont des privilégiés, il y aura 220 000 personnes qui sont cooptées. Alors probablement beaucoup de notables, d'élus, etc. sont des privilégiés. Et il y aura 200 000 personnes qui seront soit des riverains dans ce quartier un peu hors sol, sur les rives de la Seine, tant mieux pour eux, mais des balcons et des péniches ou des Airbnb. Airbnb d'ailleurs sponsor des Jeux Olympiques. Hein. Ma fille a trouvé un Airbnb, je tiens à la remercier, elle m'a envoyé cette information, un Airbnb à 15 000 euros la nuit pour avoir une vision sur... alors c'est le plus cher, hein, mais en général ça tourne autour de 1500 à 3 000 euros la nuit pour avoir une vue sur la scène. Donc on voit que c'est un spectacle très populaire. En fait, en matière de populaire, c'est 50 000 personnes dans les fan zones. 50 000 personnes sur 600 000, ça fait moins de 10%. Donc il y a plus de 90% pour les privilégiés et 10% pour la plèbe. En fait, c'est à l'image de Paris, hein, c'est des Jeux Olympiques VIP, c'est à l'image des Jeux.
Dernier mot.
Eh bien, c'est aussi à l'image du gouvernement qui a choisi Made for Share, ce slogan fantastique, digne des meilleures multinationales, des mascottes Made in China et Airbnb pour sponsor officiel. Enfin, la boucle est bouclée. On est dans un Paris, très populaire, hein, à la mode macroniste.
Apolline ?
Exactement.
Embrassez votre fille.
Ce sera fait.
J'ai retenu son prénom. Merci beaucoup pour ce regard.
Je peux ajouter un dernier mot ?
Bien sûr.
Un dernier mot.
Rapide.
En matière de souveraineté nationale aussi, ça me tenait à cœur. On va pouvoir sécuriser. Uniquement parce qu'il y a des Polonais, il y a des Américains, ah oui. Il y a des Marocains, il y a des Allemands qui vont venir en armes avec des brigades cynophiles. Et surtout, nos grands amis du Qatar, vous savez, ce pays qui hébergeait le Hamas et qui pourrit un peu nos banlieues avec les frères musulmans, eh bien, ils vont avoir accès à toutes nos infrastructures de sécurité et ils vont nous aider à sécuriser les Jeux Olympiques. C'est pas beau, ça ?
Beaucoup s'en étonnent, mais ça reste un pays ami, le Qatar.
Oui, oui, de plein de gens.
Merci, mon cher Guillaume. Charlotte Dornelas, hier, je disais tout à l'heure, une jeune fille a porté plainte après avoir été agressée par 4 adolescents parce qu'elle ne respectait pas le jeûne du Ramadan qui se terminait d'ailleurs hier soir. Elle n'est que, entre guillemets, légèrement blessée, mais ses signaux faibles, est-ce qu'ils ne sont pas, au bout du bout, inquiétants ?
Mais c'est sûr que les signaux sont plus ou moins faibles ces derniers jours, vous l'avez dit tout à l'heure. Et si cette agression-là a retenu notre attention dans un océan de violence et de harcèlement scolaire que l'on décrit assez souvent, c'est parce qu'elle est significative d'autre chose que de la violence et du harcèlement. En l'occurrence, les violences n'étaient pas gravissime, je mets plein de guillemets, mais par rapport aux horreurs qu'on a vues ces derniers jours. Et le harcèlement scolaire, en l'occurrence, n'est pas caractérisé dans cette affaire. Là, en l'occurrence, c'est du harcèlement circonstancié en raison du Ramadan, c'est ce qu'elle dépose dans sa plainte. Et c'est significatif, en l'occurrence, de cette volonté d'imposer, et parfois en premier lieu, aux leurs, entre guillemets, à ceux qu'ils identifient comme les leurs, ceux qui devraient être musulmans comme eux imaginent qu'il faut être musulman, une police religieuse qui se situe, et il est important de le noter, parce qu'on dit police religieuse, donc on attaque, donc tout le monde se tait, mais la police religieuse, en l'occurrence, elle ne se situe pas sur le terrain de la foi. On ne lui a pas demandé si elle avait bien fait sa prière dans son cœur le matin, si elle pensait à Dieu le soir en se couchant. On l'attaque, en l'occurrence, parce qu'elle a mangé à une période où il ne faut pas manger. Donc c'est sur celui des mœurs, en l'occurrence, que s'exerce cette police. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois la police des mœurs. Je ne sais pas si Éric Dupond-Moretti acceptera le mot. Alors ces jeunes sont des relais la plupart du temps, parfois même inconscients d'une conquête islamique qui s'attaque aussi aux musulmans qu'ils ne le sont pas correctement aux yeux des islamistes cette fois-ci. Donc vous voyez que le but, c'est évidemment de prendre en otage les musulmans, de leur faire peur, et par ce biais-là aussi d'asseoir la conquête plus large, en l'occurrence de la France. Alors on a cette jeune fille, et c'est aussi l'accusation de mécréant qu'on a entendu notamment dans le récit de l'histoire de Samara. C'est la question du crime d'honneur, évidemment, ça rentre dans la même histoire, c'est le rapport des femmes, des hommes et évidemment le rapport à la sexualité. C'est aussi l'absentéisme scolaire, non pas en lui-même, c'est l'absentéisme scolaire encouragé. Vous aviez vu l'année dernière, on avait vu des influenceurs expliquer à grand renfort d'articles de loi ce qui devait être dit au professeur pour ne pas aller à l'école. C'est pas dans le cadre d'une famille et en vertu de la loi, on décide parce que la fête est très importante pour la famille d'être absent ce jour-là en partenariat avec l'école. Là, c'est par le biais d'influenceurs, on se dit on va se rebeller finalement contre l'école et ne pas y aller. C'est deux phénomènes différents dans la proportion qu'ils ont et dans la manière dont ils sont faits. C'est aussi le port du voile qui parfois est fait comme une provocation. Cette jeune fille, évidemment, en BTS qu'on avait vue au collège Maurice Ravel ou l'abaya, rappelons que ceux qui veulent absolument imposer cette question-là nous disent que c'est une question de liberté individuelle. Mais si ce n'est pas une obligation religieuse, s'il n'y a pas d'obligation religieuse, alors interroger la manière de se vêtir sur le terrain des mœurs en France n'est pas une atteinte à la religion. C'est bien une question de la manière dont nous allons vivre ensemble, dans la manière dont nous allons nous reconnaître ensemble. Et c'est aussi le témoignage de toutes ces femmes. Souvenez-vous, au moment de l'attentat d'Arras, le témoignage, le récit de cette petite sœur de 11 ans du terroriste qui n'avait plus le droit d'aller à l'école, qui n'avait plus le droit de sortir sans son voile parce que son frère avait pris la place de son père, nous expliquait-on dans la famille, et qu'elle ne pouvait plus respirer. C'est quand même des femmes qui existent en France. Là, aujourd'hui, qui vivent ça en France aujourd'hui, qui n'intéressent pas grand monde. C'est évidemment les histoires de séparation d'élèves dans les cantines, en fonction des tables avec porc, des tables sans porc. C'est quand même des récits qu'on entend désormais régulièrement, trop régulièrement en tout cas, par rapport à ce qu'ils sont, les horaires différenciés évidemment. Ces dizaines de personnes sous protection policière parce qu'elles ont parlé, ou même parce qu'elles ont écrit. On peut être en désaccord.
Mais parfois, elles n'ont rien dit.
Ou parfois ne rien dit, non mais vous avez raison, ou parfois parce qu'elles sont assimilées à ce qu'elles penseraient, à ce qu'elles auraient dit, à ce que pense un autre, ou à celui qui était assis à côté d'elles sur un plateau de télévision au hasard. Et ce sont des morts bien réelles pour s'être opposées, pour avoir même insulté, ils en sont morts. En France, ça n'existe pas en réalité. Donc on voit bien que tout se mêle en permanence dans notre actualité, mais ce qui relève, tous ces sujets-là sont rarement abordés parce qu'on se dit oui, mais ça finit par porter atteinte. Comme ils sont eux-mêmes confus et qu'on est sur un terrain qui est parfois commun entre l'islam et l'islamisme par la force des choses et par les revendications des islamistes sur les musulmans eux-mêmes, personne ne veut en parler. Mais si on nous explique que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, mais que évoquer la conquête de l'islamisme, c'est porter atteinte à l'islam, alors là, c'est face je gagne, pile tu perds, en fait. C'est impossible de s'en sortir et d'avoir une conversation entre adultes sur ce qui est en train d'arriver dans notre pays et parfois au détriment de gamins de 13 ans, je le rappelle quand même.
Aujourd'hui, Charlotte Dornelas, pourtant c'est une grande fête pour tous les musulmans du monde, puisque c'est la fin du Ramadan et ça se fête. Mais c'est devenu en France une information. Maintenant, on en parle très régulièrement, de plus en plus, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Quelle est cette fête ?
Et l'Aïd El Fitr. C'est devenu en effet une information qui est traitée par tous les médias. J'ai regardé aujourd'hui, tout le monde explique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête, etc. Mais vous avez des papiers sur tous les médias. Je note qu'ils font moins ricaner certains de nos confrères que quand on fait un article sur Pâques. Je referme la parenthèse. Mais ça dit beaucoup de l'effondrement aussi de notre propre rapport à la culture. Alors, en effet, cette fête aujourd'hui, c'est une immense fête pour tous les musulmans du monde. C'est aussi une fête pour les islamistes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué en réalité. Et là, je ne veux faire aucune polémique sur la question. C'est évidemment une immense fête pour tous les musulmans du monde qui vient rompre, qui vient clore en réalité les 30 jours de jeûne du Ramadan. Et par ailleurs, j'ai essayé de savoir d'où venait le Ramadan d'abord et cette fête qui vient finir le Ramadan. Et en gros, c'est une fête. Le jeûne est prescrit par le Coran en disant, alors là c'est ouvrir les guillemets, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. En l'occurrence, le christianisme et le judaïsme. Alors là, pour les islamistes, c'est un peu compliqué, hein, cette phrase. C'est-à-dire, vous allez faire comme vos petits copains juifs et chrétiens. Là, c'est un peu compliqué à digérer. Et je parle de ce que je connais en l'occurrence, c'est-à-dire moins cette fête-là qu'en l'occurrence les communautés précédentes. Il s'agit normalement de se libérer par le biais du jeûne de ses pulsions et de son corps pour accéder à l'esprit. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris la leçon non plus de ce à quoi sert le jeûne, on va dire, pour une personne. Mais simplement, la journée, en gros, elle consiste, et pour l'expliquer, hein, tout simplement, elle consiste à prier, se retrouver dans la communauté pour fêter justement la fin de ce jeûne. Et c'est des rites qui sont partagés en famille ou entre amis. C'est la raison pour laquelle la loi accordait en 1967 une dérogation de présence aux personnes de minorité religieuse pour les fonctionnaires. Et ça a été accepté en 2004, étendu, on va dire, aux élèves dans les collèges et les lycées, et les primaires d'ailleurs, d'où le fort absentéisme scolaire le jour de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire aujourd'hui.
Alors en une minute pour terminer, puisqu'on a fini notre émission, quand même cette dernière question, pourquoi fait-il débat alors même qu'il est donc permis par la loi et qu'il s'agit simplement de fêter la fin d'une période spirituelle dans l'intimité de sa maison avec sa famille?
Ben oui, en fait ça fait débat parce que c'est l'ampleur qui fait débat, c'est l'absentéisme, encore une fois, c'est pas une personne, c'est l'ampleur, c'est des écoles vides de leurs profs et de leurs élèves. Tout à coup, un pays entier réalise ce que sont les conséquences culturel, c'est-à-dire le changement culturel, c'est-à-dire le multiculturalisme de fait, le fait qu'on ne vive pas de la même manière. Il n'y a aucune insulte dans ce que je dis. Hein. On ne vit pas de la même manière au sein du même pays, c'est-à-dire les conséquences d'une immigration qui nous a été vendue non seulement positivement, mais en nous disant ça ne change rien, ça ne changera rien, ça ne change rien. Et tout à coup, quand on découvre que tout est changé, il faut trouver ça formidable et merveilleux, quoi qu'il en soit. Et je précise ici qu'il ne s'agit pas d'une opinion. Si une religion en France à des jours fériés, et que les fidèles d'autres religions ont une dérogation pour pouvoir être absents ce jour-là. C'est parce que la première religion, en l'occurrence le catholicisme en France, a dessiné la civilisation à laquelle nous appartenons. Et c'est précisément parce que cette civilisation accorde une dérogation aux minorités au nom de la liberté religieuse qui n'existe que dans notre civilisation, en l'occurrence à cette échelle-là. Je pense que tout le monde devrait garder ça en tête au moment d'aborder ces sujets.
Merci beaucoup Charlotte, je vous ai un petit peu pressée tous, on était un peu en train de courir par le temps. En tout cas, bisous à mon papa, ma maman, je suis bien en vie, comme j'ai dit en début d'émission, bisous à ma mamie qui a 100 ans aussi. Je ne suis pas morte contrairement à ce que disent les réseaux sociaux. L'heure des Pro 2, tout de suite avec Pascal Pro.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.